plutôt du martyr de la station de Vierge Marie. Oui, j'ai bien dit du martyr de Marie, puisque le litanie de Lorette la proclame reine des martyrs. Si Notre-Dame est ainsi couronnée en ce titre, c'est qu'elle a subi le martyr le plus long et le plus douloureux de tous. De fait, la tradition spirituelle chrétienne, les monuments de l'art sacré et la sainte liturgie ont toujours considéré et représenté Notre-Dame durant la Passion. Pensez en particulier à la dévotion et à la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui a son origine dans la Révélation, mais qui s'est répandue largement dans la chrétienté grâce à l'ordre des Servites de Marie. Ordre fondé au XIIIe siècle, après que Notre-Dame est apparue à sept fidèles, sept marchands florentins, sept amis tous âgés d'une trentaine d'années, pour leur demander de méditer souvent ce qu'elle avait souffert et de porter un habit religieux de couleur noire en souvenir de ses douleurs. Ces sept fondateurs furent canonisés ensemble, comme un seul homme, par Léon XIII. Ils ont contribué à diffuser partout la dévotion aux douleurs de Notre-Dame, dévotion féconde en grâce, grâce de conversion, grâce de progrès, grâce de persévérance. La Passion et la croix, c'est l'œuvre du Christ, ce pourquoi il est venu parmi nous ici-bas. Toute la vie de Jésus-Christ regarde vers le vendredi saint. Cet instant précis où, élevé entre ciel et terre, sur la croix, il s'offrira en sacrifice à son Père pour le salut des âmes. Bossuet disait, la citation est classique, « Il n'y a rien de plus grand dans l'univers que Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand en Jésus-Christ que son sacrifice. Et il n'y a rien de plus grand en son sacrifice que son dernier soupir et que le moment précieux qui sépara son âme très sainte de son corps adorable. » Comment imaginer, chers fidèles, comment imaginer un seul instant que la très sainte Vierge Marie fût absente de ce sacrifice? Comment imaginer qu'elle ne jouât dans la sainte Passion qu'un rôle de figuration? Comment imaginer que celle qui fut une condition de l'incarnation fût absente de l'acte solennel de la rédemption? Méditons donc la Passion de Jésus et le martyr de Marie, car comme le disait Saint Albert le Grand, on mérite davantage par une seule méditation bien faite sur la Passion qu'en jeûnant toute une année le vendredi au pain et à l'eau, qu'en se donnant la discipline jusqu'au sang, qu'en récitant le psautier. Notre-Dame se trouve avec Jésus, son Fils, au cœur de la Passion, comme crucifié avec son Fils. Ô ma souveraine, dit saint Bonaventure, vous étiez près de la croix, mais je dirais que vous étiez sur la croix elle-même, crucifiée avec votre Fils. Cela fut rendu possible, car Marie ne faisait qu'un avec Jésus. Il y avait entre la mère et le Fils une ressemblance parfaite. Tout ce que notre Seigneur avait d'humain, sa nature humaine complète, lui fut donné par Marie. Tout le cœur, tout le corps de Jésus venait exclusivement de Marie. Il y avait donc une conformité parfaite entre Marie et Jésus par le corps. Mais il y avait aussi une similitude d'esprit, puisqu'ils cherchaient tous les deux à se conformer exactement et parfaitement à la volonté du Père. Ils étaient en outre unis intimement par la grâce. Marie, pleine de grâce, unie à Jésus, plein de grâce et de vérité. Cette unité de corps et d'esprit entraînait une communion d'âme unique qui fit dire à beaucoup de saints que durant la Passion, il n'y avait pas de blessure dans le corps de Jésus, il n'y avait pas dans le corps de Jésus une blessure qui ne fût blessure pour le cœur de Marie. La croix et les clous de Jésus, nous dit encore saint Augustin, furent les clous et les croix de Marie. Avec le Christ crucifié était crucifié la mère. Vous savez que l'apôtre saint Paul s'adresse ainsi aux chrétiens. Ayez en vous les sentiments, les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia, plus encore obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Ayez en vous les sentiments de Jésus crucifié, c'est-à-dire ressentez ce que Jésus a ressenti en se faisant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Marie a complètement et parfaitement accompli cette demande. Elle ressentait les peines du corps et les douleurs de l'esprit de son Fils, non seulement par le lien naturel qu'ont une mère et son enfant, mais encore dans l'ordre surnaturel de la grâce. Car Jésus souffre non comme un homme simplement, mais il souffre comme un homme Dieu. De même, Marie souffre non comme si elle était une mère commune, elle souffre comme la mère d'un Dieu. Il y avait à l'égard de Jésus dans le cœur de Marie deux amours qui n'en formaient qu'un seul. L'amour surnaturel par lequel elle l'aimait comme son Dieu et l'amour naturel par lequel elle l'aimait comme son Fils. Quand l'amour est sans borne, dit saint Albert le Grand, sans borne aussi est la douleur. Tout le monde sait qu'une mère ne peut voir souffrir un de ses enfants sans que la peine de cet enfant ne devienne sa propre peine. Nous en avons un exemple, une illustration dans l'Ancien Testament, avec la mère des Maccabées, qui vit ses sept fils suppliciés l'un après l'autre dans d'affreux tourments. Autant elle en vit souffrir, dit saint Augustin, autant elle endura de martyrs. Elle les aimait tous, et ce que chacun endurait dans sa chair, elle l'endurait en le regardant. Il en fut de même pour Marie. Tous les tourments, les fouets, les épines, les clous, la croix qui déchirèrent la chair innocente de Jésus, entrèrent en même temps dans le cœur de Marie pour lui faire subir son martyre. Ce que Jésus souffrait dans sa chair, Marie le souffrait dans son cœur. Le cœur de Marie était donc comme un miroir des douleurs de son Fils. On y voyait se refléter les crachats, les coups, les plaies, toutes les souffrances de Jésus. Vous savez que tous les martyrs ont été consolés par la pensée de Jésus crucifié. Nous avons de nombreux exemples étonnants dans les hagiographies ou les actes des martyrs, comme par exemple la répartie de saint Laurent sur son grille lorsqu'il dit à son bourreau: vous pouvez me retourner, ce côté-ci est déjà bien pris. La raison était que l'amour de notre Seigneur adoucissait leur tourment. La pensée de Jésus était pour eux une consolation. Mais pour Marie, il n'en fut pas ainsi. Qui pourrait la consoler, puisqu'elle souffre précisément par Jésus? C'est notre Seigneur qui, par ses souffrances, est la cause des siennes. C'est l'amour qu'elle lui porte qui fait son martyre et non sa consolation. Ainsi, comme l'ont remarqué beaucoup de saints, comme on représente les martyrs, chacun avec l'instrument de son supplice, saint Paul avec l'épée, saint Sébastien avec les flèches, saint André avec sa croix, saint Étienne avec les cailloux ensanglantés, sainte Catherine avec la roue, ainsi on représente Marie avec son Fils mort entre ses bras, parce que Jésus fut le seul instrument de son martyre à cause de l'amour qu'elle lui portait. Quand l'amour est sans borne, sans borne aussi est la douleur. La grandeur du martyre de Notre-Dame découle d'un principe infaillible que nous donnent les théologiens. La mesure de la grâce de Marie est celle de sa croix. Or, nous mesurons bien la grandeur de la grâce de Marie. Nous savons quel est le chef-d'œuvre du bon Dieu, ce que le bon Dieu dans tout l'univers a créé de plus beau et de plus parfait, comme le disait le Saint-Curé d'Ars. nouveau monde que celui qui existe. Mais il ne pouvait donner l'air à une créature plus parfaite que Marie. Notre-Dame épuise donc la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en sa toute-puissance, ne peut aller au-delà de Marie dans l'ordre de la perfection créée. Le Seigneur a fait en moi des merveilles, de grandes merveilles, reconnaît Notre-Dame dans son Magnificat. De cette grandeur de Notre-Dame, de cette plénitude de grâce en Marie, qui la place réellement à part dans la création, nous déduisons la grandeur de sa croix et de son martyre de l'Esprit. Son sang ne fut point versé lors de la Passion, comme fut versé jusqu'à la dernière goutte celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'offrant en sacrifice, voulut être immolé sur la croix. Mais cela ne fut pas nécessaire. En effet, selon l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, pour mériter la gloire du martyr, il suffit de pousser l'obéissance à son degré suprême en acceptant même la mort. Ainsi, par exemple, l'apôtre saint Jean a subi le martyr et en possède le titre parmi d'autres, mais vous savez qu'il n'est pas mort des tourments qui lui furent infligés et qui auraient dû entraîner son trépas immédiat. Ainsi, saint Bernard explique: ce n'est pas par le fer du bourreau, mais par la douleur mortelle de son âme que Marie fut martyre. Si son corps ne tomba pas sous les coups des bourreaux, son cœur béni fut transpercé par la douleur que lui causa la Passion de son Fils. Douleur capable de donner non pas une mort, mais 1000 morts. Et c'est ce qui va nous faire voir que non seulement la Sainte Vierge fut une vraie martyre, mais que son martyre fut le plus grand de tous, parce qu'il dura plus longtemps et qu'il fit, pour ainsi dire, de sa vie une longue mort. Oui, le martyre de Notre-Dame a commencé dès l'incarnation, dès le jour de l'Annonciation, et je m'explique. C'est le propre d'une mère que de donner la vie. La maternité est une grâce, une bénédiction du ciel, puisqu'il s'agit de donner l'existence et de mettre au monde un enfant. Ainsi, les douleurs de l'enfantement sont éclipsées par la joie de la maternité, comme le disait notre Seigneur. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Notre-Dame, étant la mère de Dieu, elle devrait être la plus heureuse des mères. La joie de sa maternité devrait être parfaite à l'image de la grandeur et de la sainteté de son Fils. Mais considérez qu'en acceptant le jour de l'Annonciation de devenir la mère de Dieu, elle donnait par conséquent un corps mortel au Verbe divin éternel. Le fiat de Marie, le oui de Marie à l'Annonciation, a rendu Dieu mortel, passible, capable de souffrir. Dieu, en tant que Dieu, ne peut ni mourir, ni souffrir en sa nature divine. Mais si Dieu s'incarne en Marie, s'il assume une nature humaine complète comme la nôtre, hormis le péché, il pourra désormais connaître et la souffrance et la mort. Donc Marie est obligée, au même instant qu'elle devient mère, d'être le principe de la croix de son Fils en la nature humaine qu'il prend d'elle. Mon enfant, je t'ai donné un corps, mais en te donnant un corps, je t'ai donné la mort. Un théologien illustre ainsi. Rebecca revêtit son fils Jacob des habits d'Ésaü, afin que, se présentant à son père Isaac, il pût recevoir les privilèges de la bénédiction due au fils aîné. Marie a dit le Fils de Dieu d'une chair semblable à celle des pécheurs, pour recevoir la paix que méritaient tous les péchés de tous les pécheurs. La poète Marie Noël exprime encore cette même vérité dans sa berceuse de la Mère de Dieu. De mort, ô mon Dieu, vous n'en avez pas. Pour sauver le monde, ô douleur là-bas, ta mort d'homme un soir, noir abandonné, mon petit, c'est moi qui te l'ai donné. Et le temps qui d'ordinaire apaise la douleur des personnes affligées, ne fit qu'augmenter mon mari. Car il est certain que Marie, instruite en sa jeunesse au temple de Jérusalem, et éclairée d'une manière particulière par le Saint-Esprit, comprenez mieux les prophéties touchant le Messie que les prophètes eux-mêmes qui les avaient écrites, comme celle d'Isaïe. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, conclut Isaïe, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. À mesure qu'il grandissait, son fils Jésus lui apparaissait de plus en plus beau, de plus en plus aimable, digne d'amour, et en même temps elle voyait se rapprocher l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Saint Bernardin nous dit ainsi que sans cesse Marie pensait à la mort cruelle qui devait être celle de Jésus. Quand elle l'allaitait, elle pensait au fiel et au vinaigre. Quand elle l'enveloppait de l'ange, elle pensait au lien dont on le chargerait. Quand elle le portait entre les bras, elle pensait à la croix où il serait suspendu. Quand il dormait, elle le voyait couché au tombeau. Chaque fois qu'elle lui mettait sa tunique, elle pensait qu'un jour les bourreaux la lui arracheraient pour le crucifier. Et quand elle lavait ses mains et ses pieds, elle pensait au clou qui les percerait, parce que tout cela, tout, était annoncé, prophétisé, sans l'ombre d'un doute. Le vieillard Siméon, recevant l'enfant Jésus dans ses bras, avait confirmé les sentiments de Notre-Dame, disant « Il sera placé comme un signe de contradiction, et vous-même, vous aurez là transpercé par un glaive de douleur. » Et puis notre Seigneur, en grandissant, va s'éloigner de plus en plus de sa mère. Nous le voyons à de nombreuses reprises dans l'Évangile. Jésus va volontairement se détacher de Marie. Il semblera même la rejeter. Il y a d'abord la perte de Jésus au temple, lorsqu'il eut 12 ans. Mon fils, pourquoi avez-vous agi de la sorte avec nous? Pourquoi nous traitez-vous de la sorte? Votre père et moi nous cherchions avec tant de douleur. Notre Seigneur ne lui fit aucune excuse. Pourquoi me cherchez-vous? Je dois me consacrer au service de mon père. Plus tard, à Cana, lors des noces, notre Seigneur refuse de l'appeler mère. Il lui dit « Femme, que me voulez-vous ? » Il lui donne un autre nom, « Femme ». Et il lui dit encore « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ?» Et puis un jour, Notre-Dame apprendra Jésus dans la rue, à la porte d'une maison dans laquelle notre Seigneur s'entretenait, selon son habitude, avec toutes sortes de personnes, pour enseigner les arts, guérir les malades et consoler toutes ces âmes de, par sa présence divine. On lui fait dire « Votre mère vous attend dehors ». Et notre Seigneur, sans bouger, répond étendant la main vers ses disciples « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère ». Il laisse sa mère seule dehors, comme s'il était indifférent. Un autre jour encore, quelqu'un lui criera enthousiaste. C'était la fin d'ailleurs de l'Évangile d'aujourd'hui. Bienheureux les entrailles qui vous ont porté et le sein qui vous a nourri. C'est-à-dire bienheureuse votre mère. Notre Seigneur répondra, comme s'il amoindrissait la grandeur de sa sainte mère, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ces exemples tirés de l'Évangile trouvent leur sommet sur le calvaire, lorsque notre Seigneur appelle à nouveau sa Sainte Mère accablée de douleur au pied de la croix. Il la nomme encore par ce terme froid et détaché de femme. Femme, voici votre fils. Alors que signifie ce traitement? Quelle en est la raison? Il y a plusieurs explications, mais la raison principale est que notre Seigneur Jésus-Christ refuse toute consolation. Il veut être seul pour que s'accomplissent les prophéties. Il refuse la consolation de la présence de sa Sainte Mère afin d'accomplir ce qu'annonçait Isaïe. J'étais seul affoulé au pressoir. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait pas d'aide. J'ai recherché et il n'y avait personne qui m'aida. Notre Seigneur devait ne rien recevoir en sa passion et rester seul pour que s'accomplisse encore une autre prophétie, celle de David. La douleur a brisé mon cœur et j'ai attendu quelqu'un qui s'attriste avec moi et il n'y eut personne. J'ai cherché quelqu'un qui me console et je n'ai trouvé personne. Il fallait qu'il en soit ainsi. Ainsi notre Seigneur a repoussé Marie. Femme, qui est ma mère? Que me voulez-vous? Il l'a repoussé pour suivre uniquement et totalement la volonté du Père. Je dois me consacrer à la volonté de mon Père. Et Notre-Dame mesurera la grandeur et l'étendue de l'abandon de son Fils lorsqu'il s'écrira sur la croix: Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Notre Seigneur a voulu se détacher de tout, même de sa mère, parce que la présence de sa mère était une trop grande consolation et une trop grande joie. Oui, cela est certain, nous pouvons l'affirmer. Chaque fois que Jésus regardait Marie, il en était d'une certaine manière consolé, parce qu'il voyait en Marie l'Immaculée Conception. Vous savez que certains théologiens, dans l'histoire de l'Église, eurent des difficultés à admettre la conception immaculée de Notre-Dame. En effet, disait-il, si Notre-Dame est préservée du péché originel, elle échappe à la rédemption, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle n'a pas besoin de Jésus. Elle est en dehors du salut apporté par la croix. Ce qui est en contradiction avec la révélation, comme l'enseigne saint Paul, tous les hommes sont sauvés en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. À cette difficulté apparente, l'Église a répondu que Marie a été rachetée par les mérites de son Fils et de la manière la plus parfaite, par une rédemption non pas libératrice du péché déjà contracté, mais par une rédemption préservatrice. Et déjà, nous comprenons humainement, celui qui nous guérit de nos blessures est notre Sauveur. Mais est notre Sauveur bien plus encore, celui qui nous préserve d'une blessure, celui qui nous préserve d'un coup qui devrait nous être fatal est notre Sauveur. Et c'est ainsi que Jésus est le Sauveur de Marie, en la préservant du péché originel. Ainsi, Marie n'échappe pas à la rédemption. Elle est le premier fruit de la rédemption. Elle en est le fruit le plus parfait. Elle est la première conquête de Jésus. Elle est sa conquête la plus parfaite. Le sang de Jésus a racheté Marie de la manière la plus totale qui puisse être, puisqu'elle est immaculée en prévision des mérites de Jésus sur la croix. Ainsi, vous comprenez que, en regardant sa Sainte Mère, en regardant Marie, notre Seigneur était toujours consolé, puisqu'il voyait le fruit du sacrifice qu'il devait accomplir sur la croix. Et c'est pourquoi il s'en éloigne. Il veut être seul pour boire la coupe jusqu'au bout et sauver les âmes par son sacrifice rédempteur. Mais cet éloignement éprouvera encore davantage Notre-Dame, achevant son martyre. Car elle aussi sera seule et privée de tout, privée du monde qui était déjà mort en son cœur, privée de son Fils, privée par son Fils. elle se retrouve privée de toute attache terrestre. Le vendredi saint, Marie n'a plus rien ni personne. Elle est comme morte. Comme Abraham, elle a obéi à la volonté du Père Céleste. Elle s'est conformée en tout à la volonté de Dieu. Elle a gravi le mont Golgotha, mais sans en redescendre avec son Fils en vie, comme Abraham. En considérant toutes ces souffrances de Notre-Dame, nous comprenons que le martyr de Marie l'a rendu digne de coopérer par les mérites de ses souffrances extrêmes à notre rédemption. Marie est donc co-rédemptrice. Ses mérites ont contribué à notre salut. Ses mérites nous ont fait naître à la vie de la grâce. Le Christ a voulu que la coopératrice de notre rédemption fût au pied de la croix parce qu'il avait décidé de nous la donner pour mère. Et c'est au pied de la croix qu'elle devait nous engendrer comme ses enfants. La Sainte Vierge nous a enfantés, mais cette foi, elle a enfanté dans la douleur. Vous savez que la foi de l'Église ne se limite pas à affirmer que Notre-Dame fut vierge avant l'enfantement. La foi de l'Église affirme aussi sa virginité pendant l'enfantement, ainsi qu'après l'enfantement. Virgo ante, in et post partum, résumé théologien. Vierge avant, pendant et après l'enfantement. Ce fait de la virginité perpétuelle de Notre-Dame est défini par l'Église comme faisant partie du dépôt de la foi. Il ne s'agit pas d'un mythe ou d'une pieuse tradition, mais bien d'une vérité révélée, car les papes, les conciles et les catéchismes l'ont toujours affirmé clairement et à de très nombreuses reprises et dès les premiers siècles. Je vous cite à titre d'exemple le pape Paul IV dans une constitution dogmatique solennelle. Désirant avertir tous et chacun qui ont affirmé, enseigné ou cru jusqu'ici que cette même bienheureuse Vierge Marie n'est pas vraiment mère de Dieu et n'est pas demeurée dans l'intégrité virginale avant, pendant et perpétuellement après l'enfantement, nous requérons et avertissons de la part de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit, par l'autorité apostolique qui est la nôtre, qu'ils encourent l'anathème. Oui, Notre-Dame a conçu virginalement notre Seigneur et l'a mise au monde sans les douleurs de l'enfantement. La nuit de Noël, on entendit les pleurs de l'enfant Dieu, mais pas les pleurs d'une mère. En effet, suite au péché originel, Dieu avait annoncé à elle, « Tu enfanteras dans la douleur ». L'enfantement dans la douleur était un signe. Rien qu'un signe, certes, mais un signe quand même. Il était le signe de la transmission du péché originel à tout enfant nouveau-né. Il ne convenait donc pas que Notre-Dame enfante le Fils de Dieu dans ses conditions liées au péché. Ainsi comme le rayon de soleil traverse la vitre sans la briser, le Verbe divin, lumière et de la lumière, engendré éternellement par le Père, a traversé la pureté immaculée de la très sainte Vierge Marie et s'est incarné en son sein sans porter atteinte à sa virginité. Et de même, il est sorti de son sein la nuit de Noël sans briser le même sceau virginal. Le pape Saint Léon le Grand nous en avertit. Quand nous nous efforçons de pénétrer le mystère par lequel le Christ est né d'une mère vierge, rejetons loin de nous le brouillard des raisonnements et que devant nos yeux, illuminés par la foi, la sagesse du monde s'évanouisse comme une fumée. Oui, on ne peut se représenter, on ne peut imaginer ce que fut exactement la naissance du Christ. On ne voit pas naître notre Seigneur la nuit de Noël, notait un théologien, de même qu'on ne le voit pas ressusciter la nuit de Pâques. Tout cela est dans le mystère. Mais les douleurs qui furent épargnées à Notre-Dame durant son enfantement ne lui furent pas épargnées lors de la Passion. Notre-Dame souffre durant la Passion les douleurs rédemptrices pour l'enfantement de nos âmes. En effet, elle est co-rédemptrice, elle a donc enfanté nos âmes à la vie éternelle, elle a donné la vie surnaturelle à nos âmes en souffrant avec son Fils lors de la Passion. Elle est devenue par son martyre, Notre-Dame est devenue par sa charité, la mère de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre. Saint Pierre d'Amiens, d'ailleurs, n'hésite pas à affirmer qu'elle commença cette mission maternelle dès le calvaire. Si le larron, dit-il, s'est converti, c'est parce que la bienheureuse Vierge, placée entre la croix de son fils et celle du larron, priait son fils pour le larron. Depuis ce jour du Vendredi Saint, Notre-Dame a continué et elle continuera toujours de se montrer notre mère et notre corps est en prise. En conclusion, je finirai sur une image, sur cette apparition étonnante, sur cette apparition déroutante que fut celle de Notre-Dame à la Salette. Le 19 septembre 1846, deux petits papes virent la très sainte Vierge Marie, mais ils la virent, chose étonnante, assise, la tête dans ses deux mains. La très sainte Vierge, dit la petite voyante Mélanie, pleurait presque tout le temps qu'elle me parla. Ses larmes coulaient l'une à l'une de l'enfant. J'aurais voulu la consoler et qu'elle ne pleura plus, mais il me semblait qu'elle avait besoin de montrer ses larmes pour mieux montrer son amour oublié des hommes. J'aurais voulu me jeter dans ses bras et lui dire « Ma bonne mère, ne pleurez pas, je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. Je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. Oui, chère fidèle, Notre-Dame mérite bien que nous l'aimions, elle qui a tant souffert pour notre salut et coopéré à notre rédemption. Je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre. Oui, l'aimer, parce qu'aimer la Sainte Vierge nous rend meilleur, parce que vénérer ses vertus nous corrige de tout ce qu'il y a de désordonné en nous, et parce que contempler sa beauté nous éloigne